Espace, frontière de l'infini, vers laquelle voyage notre vaisseau spatial. Sa mission de 5 ans, explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies, d'autres civilisations, et au mépris du danger, avancer vers l'inconnu.
Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez tous ? Oui. Bonjour à tous et bienvenue pour cette table ronde consacrée aux 50 ans de Star Trek. À mes côtés, nous avons Xavier Mauméchant, qui est auteur, qui est philosophe. Nous avons Olivier Cotte, qui, avec Jeanna Debat à ses côtés, ont commis à 80... Debat à ses côtés. Je m'excuse, commandant. Ont commis à 80 Dark Vador versus Monsieur Spock, qui est un petit... qui est un livre à la fois très hommage à Star Trek, mais qui parle aussi de Star Wars. Et qui compare les deux sagas qui ont bercé l'imaginaire de beaucoup de gens dans le public, je pense. Et enfin, nous avons Simon Bréant, universitaire spécialiste de la science-fiction. Ma première question s'adresse à nos deux spécialistes, nos deux trekkies qui sont là. En 1967 apparaît en septembre non 66 apparaît Star Trek. Est-ce que vous pouvez revenir sur les origines de la saga?
Alors moi, ce que j'aime bien, c'est l'histoire du double pilote. Alors déjà, le premier pilote fait par Roddenberry, La Cage, n'a pas l'équipage que nous connaissons avec Kirk, avec, il y a déjà Spock et il y a Majel Roddenberry, futurement Roddenberry, qui est le capitaine de l'Enterprise. Alors c'est l'une des raisons pour laquelle les producteurs ne vont pas retenir l'équipage tel qu'il est fait et ne vont pas retenir le pilote d'ailleurs, parce qu'une femme commandant, c'est juste pas probable en 1966. La réponse des producteurs, ça avait été « Les gens ne comprendraient pas, ils ne sont pas habitués. » Roddenberry leur a répondu que « Oui, d'accord, mais si on n'essayait pas de les y habituer, ça n'arriverait jamais. » N'empêche que le pilote a été recalé pour cette raison-là, entre autres, et puis parce qu'il était un peu « hot », selon les canons de l'époque, puisqu'il s'agit en fait d'une femme qui essaye par tous les moyens de se reproduire avec un monsieur. Elle utilise toutes les ressources de la simulation télépathique pour le séduire et l'amener à ses vues et à vivre avec elle sur la planète étrangère. Ça n'était pas passé dans le premier pilote. Donc il y avait eu un second pilote qui a été fait réaliser. Celui-là est passé devant les producteurs avec le capitaine Kirk en chef. Là où c'est très rigolo, c'est que finalement Roddenberry n'a pas pu se résigner à abandonner ce pilote totalement. Et du coup, dans le troisième ou le quatrième épisode de cette saison-là, on reprend certains plans de La Cage et on en fait un mix avec le nouvel équipage de l'Enterprise.
Alors, un détail, c'est que ce premier pilote, on va dire, parce que c'est vrai que c'est assez rare dans le cadre de la série télé, avait été aussi refusé parce qu'il était finalement assez complexe. C'est-à-dire que pour un lecteur de SF, même de l'époque, hein, du milieu des années 60, bon, c'était pas exceptionnel, c'était une bonne nouvelle, comme on pouvait en lire dans les magazines de l'époque. Mais là, on avait une série télé de SF qui déboulait sur les petits écrans, donc dans n'importe quel foyer. Surtout qu'à l'époque, bon, il y avait très peu de chaînes, donc il y avait aussi pas beaucoup de télévision d'installer, mais enfin quand même l'équipement commençait à arriver, mais il y avait très peu de chaînes, donc il y avait obligatoirement c'était imposé d'une certaine manière. Et c'est vrai que le premier épisode était quand même assez complexe, assez compliqué à comprendre, avec une certaine profondeur par rapport à ce qu'on avait l'habitude de voir. Et là, les producteurs ont été effrayés et se sont dit, bon, quand même, pour un premier, on va perdre, enfin, les gens ne vont pas suivre, il faudrait le simplifier. Et ça, finalement, je trouve que c'est intéressant parce que pendant toute la première saison, il va y avoir un certain nombre de thèmes de développer, mais ça va quand même être difficile à accepter pour les téléspectateurs de l'époque, ce qui fait que la série va être sur le point de disparaître, en fait, jusqu'à ce que ce soit certains fans qui permettent par leur courrier de la faire revivre.
Et en termes, Jeanne.
Juste un détail sur la bronca des fans. Et ça a été tellement énorme que Norman Spinrad, auteur présent sur le festival, comme vous le savez tous, on avait même fait l'écho dans Il est parmi nous, un de ses livres, comme étant un des grands mouvements du fandom de l'époque.
Qu'il est toujours d'ailleurs, le mouvement Trekkies.
Okay, non, mais oui. Je parlais de cette grande poussée de rage. Oui, alors le mouvement Trekkies est énorme.
En termes de filles à soins de parenté, Star Trek, est-ce que Star Trek, avec son vaisseau, est vraiment un ovni ou est-ce que ça s'inscrit déjà dans une tradition, dans un amorce de rendre la SF un peu plus populaire ou du point de vue audiovisuel ?
Star Trek, un ovni, mais c'est tout à fait identifié pourtant, je ne comprends pas.
Est-ce que c'est vraiment la première série américaine qui était faite autour de l'imaginaire avec un grand I ou c'est elle s'inspire de choses qui avaient déjà été tentées?
Vous m'arrêterez, mais je pense que la science-fiction dans la télévision américaine avant Star Trek, la science-fiction télévisuelle, la pierre blanche à Dan Marcon, c'est 1959 avec Twilight Zone. Et Twilight Zone et The Outer Limits, au-delà du réel, qui est l'autre grande série du genre, sont ce qu'on appelle des anthologies, c'est-à-dire des épisodes où la fin est au terme de l'épisode. Il n'y a pas de à suivre et il n'y a certainement pas de feuilleton. Sont deux grandes séries d'une extrême qualité. Et je pense, trompera peut-être, mais ce que Star Trek, parmi ses multiples qualités, va introduire, c'est justement cette idée de feuilleton, au sens tout à fait populaire et noble du terme, c'est-à-dire un attachement au personnage, une découverte de personnage, une réécriture éventuelle même de, par exemple, Spock. Spock devient intéressant dans la mesure où dans les épisodes ultérieurs on nuance ce qui est donné comme étant Spock et ça fait plaisir, mais je pense que la science-fiction télévisuelle jusqu'alors, déjà elle est en noir et blanc et elle est sous forme d'une succession d'épisodes one-shot, des anthologies.
Et d'ailleurs, certains des auteurs de la Twilight Zone seront des auteurs de Star Trek. Alors, cela étant, lorsque Roddenberry fait travailler Matheson, par exemple, il lui réécrit le scénario entièrement sans le lui dire et ça fait des sketchs abominables. Mais bon.
Du point de vue de l'esthétique et de justement la nouveauté qu'on peut trouver dans Star Trek à ses débuts, dans cette jolie classe, bien sûr, Xavier Méjean a déjà donné beaucoup d'éléments. Ce qui me semble frappant, c'est que dans la perspective d'une série comme La Quatrième Dimension, l'idée est quasiment toujours de mettre. L'inspiration est plus fantastique, même si bien sûr il y a de la science-fiction, mais l'inspiration est fantastique au sens où il y a un problème à surmonter, et ce problème à surmonter est souvent individuel, centré sur une personne ou sur la situation d'une personne en tout cas, même s'il y a un cadre plus général. Et souvent, la résolution est un peu pessimiste, voire éteint en partie le problème ou éteint l'individu, puisque c'est souvent, ça peut être assez souvent fatal. Alors que la logique, évidemment, la logique du feuilleton intervient pour qu'il y ait cette continuité qui est, du coup, crée des conditions nouvelles de la création, mais surtout, et c'est la chose qui évidemment est frappante dans Star Trek dès le départ, il y a cet optimisme fondamental qui fait que il ne s'agit pas de résoudre une situation mortelle pour simplement échapper au danger, mais de résoudre une situation potentiellement mortelle, de fait, pour atteindre une meilleure compréhension de l'univers. Et finalement, ça, de cette logique de prospection qui est au cœur hein, de Star Trek, ça en soi, ça me semble être une nouveauté, enfin une des pierres de touche de ce qui a fait le succès ensuite.
Oui, alors bon, Twilight Zone, j'ai toujours beaucoup aimé, jusqu'à ce que je découvre quand même The Outer Limits, qui bénéficiait de budgets plus importants, de scénarios qui étaient finalement quand même mieux écrit et surtout de réalisation qui était meilleure. Dans The Outer Limits, on a quand même des thématiques qui sont plus profondes. Enfin, on a des propos, il y a quand même des choses intéressantes qui se passent. Mais la différence avec Star Trek, ce qu'amène Star Trek quoi, 6 ans plus tard, parce que bon, The Outer Limits est arrivé comme série concurrente de Twilight Zone avec un décalage de un an et demi à peu près en termes de diffusion. Dans Star Trek, il y a quelque chose de très intéressant. Enfin, il y a deux points à mon avis. C'est d'abord le fait qu'on assiste, même si c'est un petit écran noir et blanc et dans un format 4 tiers, à une imagerie futuriste plausible. C'est-à-dire que vraiment, on essaye de montrer ce que pourrait être le futur de l'humanité de façon quasi non fictionnelle. Et ça, c'est très intéressant. Et le deuxième point, et ça, c'est la grande force de la série télé à suivre avec des personnages récurrents, c'est qu'on a un attachement aux personnages qui permet de pouvoir s'identifier et en tout cas de pouvoir les suivre. Il y a, de temps en temps, j'ai tendance à dire qu'il y a un côté sitcom, mais moins la comédie, enfin la comédie disons un peu plus faible, dans Star Trek, dans le sens où on a un lieu récurrent très important qui est la salle de navigation, le pont supérieur principal et la plupart des officiers supérieurs qui sont là, et qu'on suit le rituel des passages en vitesse lumière, des atterrissages et autres, et qu'on les connaît tous, on connaît leurs réactions, on connaît leur psychologie, les personnages sont très bien travaillés, et du coup ça a permis ça a contribué à fabriquer l'univers Star Trek dans l'esprit des spectateurs.
On a parlé de l'équipage du vaisseau. L'équipage qui est proposé dans la première série est assez novateur pour l'époque. Est-ce que quelqu'un pourrait en dire deux mots entre Jeanne et Olivier, par exemple, puisqu'il est quand même assez multiculturel pour l'époque.
Totalement, oui.
Alors, le gros point, c'est qu'il y a un Asiatique métaphorique, puisqu'il n'a pas réellement de nationalité, c'est Hikaru Sulu. Son nom, d'ailleurs, est le nom d'une mer qui baigne la plupart de tous les pays d'Asie. Hein, il n'est pas japonais, Hikaru Sulu. Hein, il est tous les Asiatiques de la planète. Et il y a Tchekhov, qui est le signe de l'espoir de la fin de la guerre froide, qui est quand même de l'espoir, hein, même en 1966. Et là, ça, c'est assez extraordinaire. D'ailleurs, dans le film Return Home, il se retrouve, Tchekhov, bien coincé dans un sous-marin nucléaire américain et il a du mal à s'en sortir. Donc, on est dans, effectivement, un équipage multiculturel et surtout mixte. Là, c'est là qu'arrive, tadam, Nichelle Nichols. La première femme officier scientifique, sérieuse, la première femme noire, ça, c'était exceptionnel. Première femme noire, premier baiser interracial à la télé. Alors, il faut savoir que l'épisode où ça se passe, quand même, il triche un peu, hein, dans le sens, puisque le lieutenant Uhura et le capitaine Kirk ne veulent absolument pas s'embrasser. Ils sont obligés de le faire par de vilains extraterrestres très, très, très désagréables. Mais ils le font quand même. Et lorsque Roddenberry a voulu montrer la scène aux producteurs, les producteurs ont dit on va quand même essayer de faire en sorte que le baiser n'arrive pas. Donc ils demandent deux tournages de cette scène. Et Shatner et Nichols s'entendent dans les coulisses pour foirer toutes les prises de la scène où ils ne s'embrassent pas. Du coup, ils sont obligés de passer celles où elles sont réussies. Il y a ça et des tas d'autres choses dans Star Trek sur promouvoir l'amour, l'égalité, la fraternité dans la galaxie. Voilà.
Et ainsi que la disparition de la maladie, de l'argent, et donc la. Il y a un épisode qui est très intéressant dans The Next Generation, où il se retrouve en train de remorquer des scaphandres qui ont été abandonnés dans l'espace. Et en fait, ce sont des gens du XXe siècle qui se sont mis en état d'hibernation. Ils sont congelés parce qu'ils avaient des problèmes médicaux, dans l'espoir qu'on trouve une issue, qu'on trouve le moyen de les guérir. Et donc, ils sont réveillés par l'équipage de Star Trek, à peu près 3 siècles après. Et évidemment, ils sont guéris en rien de temps, très facilement. Mais alors, là où ça commence à être très amusant et un peu voltairien sur les bords, c'est qu'ils ont immédiatement des réactions de terriens riches qui ont réussi quand même à se faire cryogéniser au XXe siècle, à savoir, bon, alors, il faut que je téléphone à mon avocat pour savoir où en sont mes affaires, etc. Et à un moment, on leur dit, mais vous savez, enfin, si vous cherchez donc à savoir où en sont vos affaires, votre compte en banque, il n'y a plus d'argent. Ah bon ? Mais, non, mais il n'y a plus besoin de travailler, en fait, il n'y a plus de maladie, il n'y a plus rien, là, c'est fini, ça. Et alors là, il y a un grand silence, et là, la personne réveillée dit « What's the point of life ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Alors, c'est quoi le but de la vie ? Qu'est-ce qu'on doit faire ?» Et en fait, toute l'idée de Star Trek, c'est bah, maintenant qu'on est débarrassé de ces soucis finalement biologiques, sociétaux, économiques, il reste plus qu'à se cultiver, à explorer pour apprendre. Et on a une vie pour apprendre.
Ce qui est la première, une des premières missions de Grand Enterprise.
Ouais.
C'est tout le.
Je voulais simplement. Hier, nous avons discuté sur cette même scène de la question d'utopie et machine. Et nous avons évoqué le fait que qu'il y avait effectivement cette variante de l'utopie qu'on retrouvait notamment aussi chez Banks ensuite, qui, de ce point de vue-là, à mon avis, est un spectateur de Star Trek, directement ou indirectement. Qui est l'idée que justement la machine et les progrès scientifiques libèrent de contraintes de telle sorte que l'oisiveté devient possible. Et une chose qui est frappante chez Banks et qui est déjà programmatique dans Star Trek, c'est que finalement l'utopie stable qui est au cœur de Star Trek, de la Fédération, pour attirante qu'elle puisse être, notamment pour les Trekkies qui veulent autant que possible propager ses idéaux dans la réalité, ce qui est un noble but. Eh bien, cette utopie stable n'est pas source de narration. Et en fait, comme pour Banks, l'exploration finalement des marges, en repoussant au maximum les frontières de la connaissance, et notamment par la rencontre avec d'autres intelligences extraterrestres, ça devient d'une certaine façon la seule expression possible de la nouveauté, de l'innovation, parce que finalement, le bonheur ne demande pas forcément beaucoup d'évolution. Du moins. Dans une narration pour la télévision. Voilà.
Ce qui est intéressant aussi et qui en fait une série intelligente, c'est que pas la première saison, mais disons la première formation, je ne connais pas le terme, mais l'époque Kirk, disons Kirk et son équipage, la série contient ses propres éléments critiques. Par exemple, je me souviens d'un épisode qui doit être en saison 3, je pense, qui est absolument remarquable et qui est très audacieux, où l'Enterprise arrive sur une planète qui a déjà été repérée par la Fédération et qui est dirigée par les nazis. Et ils sont en tenue nazie avec des svastikas, etc. Donc c'est complètement bluffant. Et en fait, la solution est très élégante d'un point de vue narratif. C'est que l'envoyé de la Fédération sur place, qui est historien ou sociologue, est arrivé dans une culture d'humanoïdes en pleine crise et de manière extrêmement candide et froide et glaçante. Il s'est dit, bon, bah, puisque c'est à peu près la situation de l'Allemagne au début des années 30, il faudrait faire les nazis jusqu'à ce qu'ils ne débordent pas. Et ça va rétablir tout. Mais c'est un épisode authentique, hein. Il est vraiment impressionnant. Donc il les convainc de devenir nazi, seulement à même cause, même effet, ils deviennent vraiment nazis. Et je trouve que c'était absolument remarquable parce que comme il a été bien dit ici, c'est une société utopique qui peut permettre le meilleur en libérant les êtres humains et les autres d'ailleurs des contraintes, mais en même temps elle perd la capacité à se méfier. Elle ne reconnaît peut-être pas forcément le risque quand le risque vient de l'intérieur. Et ce qui est terrifiant dans l'épisode des nazis, c'est que l'ambassadeur, qui a violé d'ailleurs l'une des règles de la non-intervention de la fédération, il a violé ce qui lui a causé en plus des problèmes moraux à lui, parce qu'il savait qu'il flinguait sa carrière et qu'il devenait criminel, mais il l'a fait de manière candide. Et justement, cette innocence retrouvée, parce qu'on n'a plus besoin d'argent, parce qu'on n'a plus besoin de travailler et tout, fait qu'aussi on perd la capacité à être parano, à se méfier. Et je trouvais ça remarquable.
Mais de toute façon, il y a un point dans Star Trek qui est délicat. Imaginez, vous êtes scénariste et on vous donne à écrire de nouveaux épisodes de Star Trek. Alors généralement, on travaille sur une question dramatique, à savoir un personnage a un manque ou en tout cas est déstabilisé par un problème, donc il doit retrouver son équilibre par le biais d'une quête, etc. Et à la fin, si ça se passe bien, ça veut dire qu'il a retrouvé un objet, qu'il a réussi à démettre le méchant, n'importe quoi. Bon. Ça veut dire qu'il faut finalement une force antagoniste. Alors c'est pas forcément une personne, mais généralement c'est quand même une personne, d'où le manichéisme que l'on voit assez régulièrement. Bon, notamment, alors si on oppose, allons-y carrément, dans Star Wars par exemple, le manichéisme est très clairement présent. Bon, mais dans Star Trek c'est un problème parce que finalement, bon voilà, il n'y a plus de Russes, il n'y a plus de méchants
si,
au sens.
Il y a toujours des Russes, mais,
oui, mais ils sont là, plus communistes. Ils prennent le thé. Enfin, voilà, bon voilà. Il y a finalement pas tant d'extraterrestres belliqueux que cela, si on compare avec la SF développée pendant le temps de la guerre froide. Donc, quels sont les arguments que l'on peut utiliser pour développer des épisodes qui soient réellement intéressants avec un but dramatique? Parce que bon, la découverte façon « je suis commandant du Beagle et je découvre les pingouins », c'est bien gentil, mais ça fait pas quand même frémir les foules quand même, et il fallait trouver à chaque fois en fait des difficultés qui ne soient pas forcément dues à un élément offensif, ou alors dans ce cas par erreur, parce qu'il y a une mauvaise compréhension, une mauvaise communication par exemple, mais ça peut être du coup une force antagoniste plutôt liée à l'environnement. Bon, ça peut être une force, une planète, ça peut être un champ d'astéroïdes, ça peut être ce que l'on veut, mais en tout cas, il fallait modifier légèrement les paradigmes d'écriture traditionnelle pour s'accorder au postulat de base de Star Trek, et c'était pas très très évident.
Est-ce qu'il y a des...
Dans cet ordre d'idées, je pense en particulier au premier épisode de Next Generation, où l'équipage arrive. Alors, le personnage qui est sans méfiance, en tout cas, il se méfie, mais il n'ira jamais jusqu'à l'agression, c'est typiquement Picard. Lui, il reculera le moment de tirer, mais jusqu'à se prendre les phasers dans la gueule. Donc, bon, dans ce premier épisode, l'Enterprise arrive sur une planète qui connaît de graves problèmes, notamment des tremblements de terre, on ne comprend pas trop ce qui se passe, tout se déglingue un peu, et ils sentent bien que les êtres humains qui sont à la surface de cette planète leur cache un truc pas clair. Y a des choses qui apparaissent et qui disparaissent au gré des envies des gens, mais chaque fois, ça dérape, ça dérive, les plafonds tombent, etc. Et Picard et Number One se demandent vraiment ce qu'on est en train de leur planquer. Jusqu'au moment où, dans l'espace, apparaît une méduse bleue géante qui se commence à tirer sur tout ce qui bouge, en gros, et personne ne comprend pourquoi. Et alors, vaguement, les êtres humains à la surface de la planète le savent, pourquoi ils se prennent la méduse géante de l'espace dans la gueule. C'est parce qu'ils ont capturé une méduse géante de l'espace, mais rose. Je n'ai jamais compris cette histoire de couleur. Et qu'ils se servent de ces capacités télépathiques pour obtenir tout ce qu'ils veulent. Et ils n'ont pas compris qu'ils avaient affaire à un être sentient, une entité conséquente avec laquelle ils auraient dû avoir des relations diplomatiques et non pas d'esclavage. Et du coup, Picard et Number One résolvent cette situation. Et la méduse rose et la méduse bleue repartent joyeusement, tentacule dans tentacule, dans l'espace. Voilà. On est typiquement dans un récit avec des gens qui se trompent, des gens qui ne comprennent pas ce qui se passe, qui commettent des erreurs. On rétablit, on donne une solution aux erreurs commises. Et tout va bien, et c'est à nouveau l'appel amour la galaxie, dans la galaxie avec des tentacules géantes. Voilà.
La première saison dure. Le premier équipage de la première série dure 4 ans. Ensuite, il y a une pause assez longue, et les producteurs trouvent dans les cartons les droits de Star Trek et décident d'en faire des films. Est-ce que c'est lié juste.
Avant de passer à l'exploitation cinématographique, il y a eu quand même des fils de Star Trek, par exemple, ça va rien dire à personne, mais il y a une série qui s'appelle Voyage au fond des mers, qui se passe sur Terre, dans un magnifique sous-marin au design ultra-moderne, et qui recycle des épisodes qui ne sont pas tournés de Star Trek. C'est-à-dire que notre océan atteint les dimensions de l'infini parce que chaque semaine, ils trouvent une fosse qui n'existait pas. Enfin, et c'est intéressant parce que avant même le reboot au cinéma, puis après avec les séries, il y a quand même une continuité en demi-teinte. On ne va pas trop déborder, mais on peut se demander, même si la série anglaise... puis anglo-américaine Cosmos 1999 n'est pas une sorte de variation de Star Trek aussi.
Mais, à la fin des années 70, on reprend le premier équipage. La série s'est arrêtée depuis quelques temps. C'était l'idée de concurrencer un autre film qui s'appelait Star Wars.
Clairement, concurrencer peut-être pas, mais en tout cas... après la sortie de Star Wars, bon, auquel, encore une fois, il faut préciser, personne ne croyait vraiment. Le succès du premier Star Wars a été une surprise pour tout le monde. Et ça a finalement... Bon, bah, les producteurs sont assez peu imaginatifs. Hein, ils vont produire finalement sur des recettes qui ont été éprouvées par les prédécesseurs. Et là, du coup, il y a eu la possibilité de produire des longs-métrages de SF avec des vaisseaux dans l'espace qui étaient quelquefois inutiles, on va dire ça gentiment. Et par contre, au niveau de Star Trek, ils se sont dit que c'était le moment effectivement de profiter de l'engouement du public pour réaliser un long-métrage. Mais alors là où je trouve qu'ils ont été très malins, c'est que autant certains copieurs peu inspirés ont vraiment ressorti du récit épique avec de l'action, mais de façon nettement moins professionnelle, avec des budgets bien inférieurs, des décors fabriqués avec du papier alu et des pistolets laser qui est juste un jouet déguisé. Bon, encore que, bon, il y avait certains transmetteurs dans Star Trek qui étaient en fait des rasoirs, comme on le sait, qui avaient été maquillés pour faire... Bon, ouais. Mais là, par contre, avec le premier Star Trek de Robert Wise, il y a une ampleur. C'est un film qui est un hymne à l'amour de l'espace et au voyage.
Et ça a continué pendant quelques temps. C'est d'ailleurs... est-ce que je peux faire un petit spoiler sur les films? Si on annonce la mort d'un... On assiste même à la mort d'un personnage qui est central dans le deuxième film, La colère de Cannes, qui est Spock. C'est quand même tout. On a l'impression aussi qu'ils essayent de clore la narration, de donner plus de contenu en narration, d'évoquer, de changer un peu le paradigme qu'on avait simplement dans un épisode télévisuel.
Bah, si je me souviens bien, la mort de Spock, c'est surtout Leonard Nimoy qui voulait se débarrasser du personnage et qui, dans la réalisation du film, a été tellement pris par la puissance finalement donnée par le personnage dans la trajectoire vers la mort qu'il n'a eu de cesse de le ressusciter. Ce qu'il a fait ensuite au film suivant. Donc, il y a aussi dans cette. Enfin, je ne pense pas qu'on puisse aborder dans le détail tous ces éléments-là, mais il y a beaucoup de choses qui se développent dans la logique de Star Trek qui vient d'un arrière-plan. C'est-à-dire que tout ça n'est pas. Ce qui est intéressant, je trouve, dans cette logique d'univers de Star Trek, c'est qu'il s'est développé par strates successives et la réalité s'est totalement mêlée à la question du projet esthétique, c'est-à-dire les conditions de réalisation, les communautés de fans, les fanfictions qui se sont développées, le lectorat aussi, puisqu'il faut quand même aussi mentionner qu'il y a eu une énorme production. littéraire dérivé qui a acquis une sorte d'autonomie profonde, qui fait que c'est un univers véritablement en expansion permanente, et que de ce point de vue-là, il peut y avoir des ambivalences de la part des acteurs eux-mêmes, mais il y a aussi le sentiment progressivement, me semble-t-il, notamment avec les films, plus au moment des films que peut-être dans la série initiale, même si Shatner était déjà très impliqué, de participer à quelque chose qui devient une aventure plus que cinématographique, en quelque sorte, plus que simplement audiovisuelle.
Au point que, de toute façon, que Leonard Nimoy deviendra le réalisateur aussi de certains longs.
Et on va même rajouter un truc, c'est que Leonard Nimoy, dans son ambiguïté totale par rapport à son personnage, a écrit deux autobiographies. L'une qui s'appelle « Je ne suis pas Spock » et l'autre « Je suis Spock ».
Après cette série de premiers films, vient un second équipage. Comment est-ce que les archétypes du premier équipage ont été respectés, ou est-ce qu'il y a eu une évolution à peu près des... Une atténuation des personnages ou une augmentation de certains domaines par rapport au...
Une chose est sûre, c'est que Picard déchire beaucoup moins sa chemise.
Oui.
Donc ça c'est une... C'est-à-dire que Picard, Jeanne Adobats a déjà commencé à le dire, c'est en un sens une forme d'antithèse de Kirk. Ils partagent des traits, bien sûr, mais là où Kirk est volontiers belliqueux, dans un bon sens du terme, pour la bonne cause, et il est prêt, il adore aller se battre au corps à corps avec tous les extraterrestres qu'il rencontre et au corps à corps avec toutes les femelles qu'il rencontre également, mais dans un autre sens, ou des fois il y a un peu des deux, mais toujours est-il que Picard, lui, par contre, est extrêmement retenu, c'est celui qui effectivement va chercher, bon, donc et Picard est extraordinairement emblématique et central, peut-être plus, je dirais, que n'a pu l'être Kirk. C'est-à-dire que Picard, c'est véritablement la pierre sur laquelle est bâtie la totalité, me semble-t-il, hein, de la saison The Next Generation. Et de ce point de vue-là, la galerie de personnages qui l'entourent me semble véritablement tournée autour de lui. À tel point que dans les épisodes où, par exemple, quand il est enlevé par les Borg ou des choses comme ça, où tout d'un coup il est retiré du jeu d'une manière ou d'une autre, ça devient tout devient totalement désorganisé. Et en un sens, il est totalement... alors même que, me semble-t-il, par un effet d'alchimie particulière, le duo Kirk-Spock était beaucoup plus opérant comme, disons, étoile binaire de la première série. Enfin, en tout cas, c'est mon sentiment sur...
Il y a un point aussi, mais c'est que le choix du nom même de Picard, même s'il a dans la biographie de Star Trek et d'origine française, il a même des vignes, enfin il est viticulteur en même temps, donc une longue famille attachée vraiment à la Terre, ce qui donne d'ailleurs une espèce de légitimité aussi. Il n'y a pas que l'espace, il y a aussi la racine qui existe. Mais indépendamment de ça, par contre, Picard, on pense immédiatement, et le choix a été clair, à toute la lignée d'inventeurs, mais suisses cette fois-ci, et d'explorateurs dans les profondeurs de la mer, soit dans les hauteurs de l'air. Donc il y a un côté scientifique, une dimension scientifique finalement qui était peut-être moins présente chez Schaffner.
Et est-ce que il y a eu aussi une inclusion encore de robots, la prédominance des Klingons? On n'a pas parlé des...
Alors oui, on parlait là, excuse-moi, je reprends sur ce qu'on disait, la représentation à l'intérieur de l'équipage dans Next Generation. On n'est plus en train de parler de l'égalité des peuples entre eux, c'est-à-dire les Russes, les Asiatiques, les Européens, surtout les Américains. Là, avec Next Generation, on est dans l'égalité des droits avec les extraterrestres. Et avec les femmes. Déjà, il y a beaucoup plus de femmes sur la passerelle qu'avant. Encore que la conseillère Troy, parfois, elle est largement plus en mini-jupe que ne l'a jamais été Nichelle Nichols. Mais, en tout cas, on a des Klingons sur la passerelle, puisque la guerre avec les Klingons qui avait lieu dans les saisons précédentes est terminée. On a trouvé un moyen de communiquer avec eux et de cesser de se battre avec eux. Il y a... eh bien, il y a les Trolls qui ne sont pas exactement des terrestres. Enfin, bref, on est vraiment dans le côté galactique. L'amour dans la galaxie, encore une fois, j'y reviens tout le temps. Mais c'est normal, hein, je suis à la base un professeur de grec. Et il y a un grand texte fondateur qui commence par dire que, en fait, l'univers tient par l'amour. C'est pas toi qui vas me contredire, hein. C'est un des premiers textes grecs qu'on apprend, qu'on étudie. Donc, du coup, on se retrouve dans une vision massivement plus large dans Next Generation que dans, dans la première saison. Mais c'est logique. Il s'appuie sur les épaules de la première génération pour aller encore plus loin. Je ne suis pas sûre que les séries suivantes aient tenu ce pari. Et quand je dis que je ne suis pas sûre, je suis d'une hypocrisie crasse, parce que j'ai mon avis très clair sur la question. Par exemple, Deep Space Nine, pour moi, c'est une catastrophe absolue.
Dont
c'est
on
un
peut
retour
parier quand même.
En arrière. Pardon, excuse-moi. Je suis en train de te bouffer ton...
Oui, mon pardon. Conducteur.
Mais indépendamment du conducteur, et pour anticiper, parce qu'après tout, on fait de la science-fiction un petit peu, il y a quand même une série Star Trek extrêmement réussie de ce moment-là, c'est Babylon 5. Mais voilà. Non, mais de fait, bon.
Mais... dans le principe aussi, c'est l'apparition aussi des robots à cette époque-là avec les Borg. Ces cyborgs qui sont une menace, mais qui ne sont, avec qui les rapports sont conflictuels et qui représentent une nouvelle entité qu'on n'avait pas forcément abordée dans la première saison, dans la suite des premiers films.
Bah, dans la première saison, c'est vrai que le thème du robot, ça restait encore de la boîte de conserve sur pattes. Et par contre, avec Next Generation, déjà... D'une certaine façon, Spock est remplacé par Data, qui a la même fonction narrative, à savoir jouer, bon, avoir une certaine puissance intellectuelle, ou en tout cas cognitive, et en même temps jouer le rôle de Candide devant certains comportements humains qui lui échappent forcément par nature, de la même façon qu'ils échappaient à Spock. Et évidemment, il y a la contrepartie de Data qui est tout à fait un homme inoffensif, et dont dans un épisode, on s'aperçoit qu'il a... Il a réellement des sentiments humains. Il y a un procès, il y a un moment qui est fait, enfin, un épisode vraiment très très beau et très émouvant. Il y a évidemment sa contrepartie et ce sont les Borgs.
Alors, il y a entre Data et Spock, il y a aussi un jeu de filiation, de continuité via Sherlock Holmes, parce que Spock, Spock cite régulièrement. Des aphorismes de Sherlock Holmes, je ne dis pas Conan Doyle, hein, je dis bien Sherlock Holmes, parce qu'on peut supposer que Sherlock Holmes existe dans l'univers. À un moment, il y a un gag autour de Spock qui descendrait de Sherlock Holmes. En tout cas, lui, on est un admirateur. Et Data dans l'Holodeck, là aussi, on pourra en parler, parce que c'est une ingénierie virtuelle qui est contemporaine de l'apparition dans notre réalité des réalités virtuelles. C'est une sorte de reprise qui est assez impressionnante du point de vue de la narration, puisque Next Generation intègre quasiment en direct ce monde qui est nouveau à l'époque, qui est la réalité virtuelle avec le holodeck. Et donc, pour revenir à Sherlock Holmes, Data dans le holodeck adore incarner le détective de Baker Street. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une troisième couche, c'est que l'un des réalisateurs des films Star Trek est Nicolas Meyer, et Nicolas Meyer est l'auteur d'un des meilleurs pastiche de Sherlock Holmes qui s'appelle La solution à 7%.
Et également scénariste et réalisateur de Time After Time, où oui, on se retrouve absolument. Avec un monde victorien et notamment Jack the Ripper qui arrive. Bon, très très bon film.
Et à propos des Borg et la cybernétique, il me semble qu'il y a quand même un point à soulever qui est que avant même l'apparition des Borg, il y a un personnage de cyborg dans la série qui est Jordi Laforge. Mais ce personnage de cyborg n'est pas du tout présenté comme cyborg. Il est simplement, il est aveugle et il a un appareillage qui lui permet de voir dans des conditions diverses. Et la question de son appareillage est d'ailleurs fait partie d'enjeux de certains épisodes. Et ce qui me semble frappant, c'est que la série, sans d'ailleurs le mettre en avant en tant que tel comme enjeu conceptuel, fait clairement une différence très nette entre l'idée de cybernétique de réparation ou de compensation et l'idée de cybernétique d'augmentation qui est très nettement condamnée, du moins dans cette série-là. C'est plus compliqué après, puisqu'il y a ils intègrent même les Borg ensuite. Mais finalement, il y a cette idée que, et c'est classique en science-fiction, mais que... Le point auquel doit s'arrêter finalement la cybernétique, c'est le cerveau. Et le problème des Borg, c'est pas tellement qu'ils soient cyborgs, c'est que leurs augmentations les conduisent à perdre leur libre arbitre au sein d'une collectivité, d'une entité collective. Mais justement, il y a notamment ce personnage de Geordi LaForge. On va pas forcément passer en revue tous les personnages, mais qui me semble là aussi, là encore, un personnage intéressant, frappant dans le sens d'une logique de l'inclusion, de l'élargissement à toutes les catégories de personnages possibles, puisque ça n'est pas courant tout de même d'avoir un personnage aveugle à la télévision, du moins à cette époque-là. Bon, voilà.
Je voulais aborder le sujet fâcheux de Deep Space Nine. On change quand même de paradigme.
Avant, je suis désolé, mais avant, j'aimerais quand même souligner une chose importante sur The Next Generation, qui me semble la meilleure saison de Star Trek, donc autant quand même en profiter. Sur The Next Generation, il y a tout de même un enrichissement considérable par rapport à la prémisse de Star Trek, qui est qu'il y a enfin la possibilité véritablement d'une communication et d'un entrelacement des destinées des différents peuples. Là où finalement la logique, mais c'était les contraintes initiales, hein, la logique de l'exploration progressive faisait que malgré tout, ça restait encore un peu timide, me semble-t-il, la première saison, enfin du moins telle que je l'ai envisagée. Et c'est l'occasion pour moi de signaler que en ce sens, The Next Generation est presque aussi bien que Star Wars, puisque... la chose qui me semble essentielle, parce que il y a eu une petite provocation sur Star Wars tout à l'heure, puisque une des choses qui me semble essentielle dans la logique de Star Wars et qui me semble trop timidement avancée au départ dans Star Trek, c'est la possibilité d'une coexistence, comme si de rien n'était, entre les différentes espèces. Et alors, bien sûr, c'est un des sujets de Star Trek, la logique du contact, la logique de la coexistence, mais je trouve qu'il y a de ce fait un point de départ qui est quasiment toujours un point de départ anthropocentré et qui va faire que, dans la logique de Star Trek, l'exploration, c'est quasiment toujours l'idée que les êtres humains vont découvrir quelque chose de nouveau. Et très peu qu'il y ait le regard porté sur l'humanité, même si Spock est là pour faire des blagues. Et dans The Next Generation, il y a beaucoup plus cette possibilité d'une rencontre, cette remise en cause du regard anthropocentré. Et je crois que c'est vraiment une des choses qui a, pour moi, c'est, de même que Picard est le noyau de Next Generation, il me semble que Next Generation, à mon sens en tout cas, c'est le cœur de ce qui a véritablement donné toute son ampleur à Star Trek, même s'il y a eu beaucoup de choses par ailleurs.
Donc... Simon résume ça très bien, en fait. Il recadre très bien le débat. Sur Deep Space Nine, du coup, que Jeanne déteste, Olivier menace de sortir si on l'aborde, mais on doit l'aborder quand même.
Non, on ne va pas sortir, mais on peut l'aborder et puis le couler oui, après.
Le couler après, tu peux tout à fait couler.
Le saborder même.
On change un peu de paradigme quand même. On n'est plus sur un vaisseau, on est sur une base spatiale et on arrive sur quelque chose qui est totalement, qui est sensiblement différent. Il n'y a plus beaucoup d'exploration.
Bon, alors, plus sérieusement, je voudrais quand même souligner que il y a chez les fans de Star Trek beaucoup de fans de Space Nine qui l'aiment beaucoup. J'ai tendance à penser que c'est surtout une question de génération, puisque la génération dont je fais partie est celle qui a découvert première saison, puis Next Generation, et Deep Space Nine arrive beaucoup plus tard, avec des gens qui n'ont pas forcément eu les codes de cinéma que nous avons suivis dès le départ. Alors, du coup, ils sont plus dans le côté, effectivement, grande station spatiale, fréquentation de races, problèmes de diplomatie, etc. Sauf que, à la base, pour moi, pour la vieille trekker que je suis, tous les soucis que rencontrent les gens de Deep Space Nine, ce sont pas des bons soucis Star Trek. À savoir, c'est pas des incompréhensions. Hein. C'est des vraies guerres de conquête avec des vrais antagonistes vraiment méchants, vraiment très très méchants souvent. Et c'est là que je ne suis plus satisfaite, moi. Autant je comprends que la vision qu'on peut avoir de Deep Space Nine tranquillement, parce que c'est une super histoire de SF. Mais ce n'est pas une super histoire de SF de Star Trek pour moi. Voilà.
Oui, alors il y a ce point-là, c'est certain que finalement on retourne vers quelque chose d'un peu plus trivial. Après, il y a un autre point, c'est que on est dans une station orbitale, on est dans des couloirs, on est dans des salles, et en compagnie d'un certain nombre d'espèces, mais de toute façon de personnages récurrents que l'on retrouve très très régulièrement. Il y a très peu de débarquements sur des planètes étranges, il y a très peu de voyages, on est dans un lieu clos, et du coup, clairement, au niveau écriture scénaristique, c'est que du dialogue. C'est pratiquement que ça. Et alors, du coup, après, en caméra, c'est pas intéressant, parce qu'on se retrouve avec du champ contre champ en permanence, les mêmes murs, les mêmes décors, en permanence, répétés, de séquence après séquence. Alors là, je parlais de sitcom tout à l'heure avec un certain décalage, mais là, c'est très, très évident. Sauf qu'en plus, ça ne fait même pas rigoler. Mais c'est d'un statisme, mais soporifique absolu. Mais ça, c'est le problème du postulat de départ qui gêne le développement du spectacle cinématographique ou même, ne serait-ce que télévisuel, avec un peu d'air.
Deep Space Nine, imaginez... Pour vous donner une idée, c'est un peu comme si les 55 jours de Pékin avaient été réalisés par Marguerite Duras.
Mais ils sont quand même juste après. Enfin, cette série n'a pas forcément été non plus un échec. Enfin, c'est même permis de faire des constructions des arcs narratifs. Qui n'ont jamais été résolus, puisque la série s'est arrêtée, mais qui ont permis d'étendre l'univers. Mais pour autant, on est revenu sur quelque chose de beaucoup plus aventureux juste après, en exploration spatiale pour les prochains équipages, pour la suite.
C'est vrai. Et puis, de toute façon, le succès de DS9, il n'est pas contestable. Là, pour le coup, on est profondément subjectif là-dessus. Et je le revendique, Olivier aussi. Et apparemment, Xavier revendique aussi. Mais c'est vraiment... Ça a relancé une bonne partie de Star Trek. Ça a permis les deux saisons suivantes. Enfin, les deux séries suivantes. Enterprise et Voyager. Mais bon, alors... j'aime bien Voyager. Parce qu'on se retrouve.
Excuse-moi de te couper, mais Simon l'a très bien dit tout à l'heure, ça a été réussi, ça s'appelle Babylon 5. C'est voilà.
Oui, voilà. Ah oui. On retrouve avec Voyager la vraie problématique de l'Enterprise, les mêmes missions, même s'ils sont paumés, que ça se passe avant. On a quand même à nouveau la possibilité d'avoir un capitaine femme, ce qui est super bien. Et surtout, on se retrouve dans les problématiques sociétales abordées par Star Trek d'habitude. Je pense notamment à un épisode qui était hallucinant de revendications en douceur, en dessous, sur l'athéisme, qui était un épisode où vous avez l'équipage qui arrive sur une lune où il y a un minerai dont ils ont énormément besoin pour faire fonctionner l'Enterprise et le vaisseau. Et en fait, c'est des cocons dans lesquels se trouvent des cadavres. Et à un moment, ils se baladent et un cocon apparaît tandis qu'un des membres de l'équipage disparaît. Alors, on trouve à l'intérieur du cocon une personne qui vient juste de mourir, mais on est dans Star Trek, les gens ne meurent plus comme ça quand ils sont jeunes et beaux. Donc on ramène la personne sur le vaisseau, on la ranime, parce qu'elle n'avait aucune raison de mourir, cette personne-là. Et pendant ce temps-là, on cherche le membre d'équipage disparu, qui lui, en fait, vient d'être téléporté. Il a été échangé par accident avec le cocon sur une planète où on pratique l'euthanasie dès l'âge d'environ 35 ans max. Je ne me souviens plus exactement là, de l'âge, mais c'est vraiment très jeune. Et puis, il suffit que les gens soient un peu bancroches, pas un peu cassés, et c'est fini. Et ils y vont avec la plus parfaite bonne volonté, puisqu'on leur dit qu'ils vont aller dans l'au-delà et qu'ils vont vivre la vraie vie. Mais en fait, ils sont morts dans leur cocon et pour l'éternité. Hein. Donc, le membre d'équipage constate tout ça, mais leur dit « mais il n'y a pas d'au-delà ». Ça n'existe pas, ce dont vous parlez là. Là, vous, quand vous rentrez dans vos sarcophages d'euthanasie, vous mourrez, point barre. Et il n'y a pas de résolution sur la question de la métaphysique, de la seconde vie, de la... Là, ensuite, il leur démontre qu'il n'y a pas d'au-delà. Et ça, c'est quand même vachement vicelard, je trouve.
Et il y a eu deux équipages après Deep Space Nine. Hops, Beau Voyageur et et Enterprise. Et la série s'est arrêtée. Est-ce qu'il n'y a pas eu une lassitude du traitement des thématiques, des épisodes au niveau du public
Non, c'est le chien, il a été mal choisi, il n'a plu à personne.
Ceci dit, bon. Ce qui est intéressant dans Star Trek, c'est qu'il y a un renouvellement quand même. Alors après, on aime ou on n'aime pas chaque génération, on va dire ça, chaque type de série. Mais c'est normal qu'elles évoluent d'abord parce que, bon, rappel, les 50 ans de Star Trek, donc un demi-siècle tout de même. On ne pourrait pas faire aujourd'hui un Star Trek comme on le faisait dans les années 60. Là, il y a une nouvelle série qui est en route, qui est en tournage. Évidemment, on a très très hâte de la voir, mais c'est certain que on risque d'être soit emballé, soit déçu parce que ça va pas correspondre soit à nos attentes, soit finalement à une culture de Star Trek que l'on a et à un attachement et à une difficulté de modifier nos paradigmes de pensée. Mais ce qui est certain, c'est que, et c'est assez formidable, c'est que ça évolue dans le temps et ça s'adapte. Alors, ça essaye généralement d'être en avance sur son temps. C'est là la grande force, mais avec plus ou moins de brio. Mais ça ne peut pas mourir. Star Trek ne peut pas mourir, c'est pas possible.
Alors justement, ils ont essayé de le tuer en lui refilant à J.J. Abrams. C'était un bel essai. J'assume totalement ma subjectivité.
Pareil pour Star Wars, de toute façon. Donc voilà.
Là, c'est la grande égalité entre Star Wars et Star Trek.
C'est le seul truc qui les rapproche finalement, c'est J.J. Abrams.
Mais quand même, le dernier, là, Star Trek, pour moi, ça a été un enchantement. Parce que là, enfin, on revenait à ce qui fait de moi une Trekkeuse depuis le départ. Hein, c'est cette vision de l'espace, ces rapprochements entre les êtres humains, la collaboration. L'antagoniste n'est pas un vilain méchant. Hein, c'est quelqu'un encore qui s'est planté quelque part, qui a subi des pressions. On est dans la collaboration, dans le collectif, et ça, c'est super chouette. Sans compter l'espace qui est toujours aussi beau. Aussi, dans ce film-là, il y a une ville spatiale qui est d'une beauté à couper le souffle. Je crois que je m'en remettrai jamais.
Simon veut pas parler.
Oui, je tiens à remercier J.J. Abrams pour ce qu'il a fait pour Star Trek. notamment, redonner enfin du temps d'écran à Monsieur Spock. Et je parle du Leonard Nimoy, même si j'aime beaucoup Zachary Quinto. Et je crois, pour le coup, que c'est l'audace du premier épisode et l'idée de revenir, en quelque sorte, en arrière, c'est quelque chose qui a fait énormément de bien, je pense, à la franchise en tant que telle. Au sens où c'est réellement le moyen de refaire un récit d'origine. Hollywood, de toute façon, aime bien faire des remakes et revenir sur les mêmes choses. Mais je crois que c'est quelque chose que, de toute façon, on a égrené rapidement les séries qui ont suivi Deep Space Nine. Mais en fait, ils essayent à chaque fois de faire la même chose. Ils essayent de refaire la même chose. Au moins, J.J. Abrams a eu, en quelque sorte, enfin, et ses scénaristes, hein, ils sont sans doute pas tout seuls dans l'histoire, mais ils ont eu le courage, voire la présence d'esprit, de carrément effacer l'ardoise et dire bon, bah écoutez, vous voulez toujours la même histoire, bah on va vous refaire la même histoire, mais un peu différemment, et puis en reprenant les mêmes personnages, tant qu'à faire, pour éviter de s'en inventer de nouveau, parce que à quoi bon, bon finalement. Et en un sens, je trouve ça assez, assez rafraîchissant et assez efficace. Hein.
C'est, il a fait exactement le même coup à Star Wars. Hein. Voilà, il ne sait pas écrire autre chose.
Et je le remercie également pour ce qu'il a fait pour Star Wars.
Il nous reste quelques minutes. On va passer le micro dans la salle s'il y a une ou deux questions.
Bonjour. Alors, j'ai une remarque et une question. Pour revenir à ce que Mme Debat disait tout à l'heure sur le premier épisode de The Next Generation, je ne sais pas si c'était l'objet de votre intervention, mais en fait, il y a, vraiment un antagoniste dans cet épisode-là, tout simplement parce que Q menace d'anéantir l'humanité si Picard ne résout pas le mystère
le problème,
de Flashpoint,
oui, mais
le Farpoint.
Q est un antagoniste fun.
Mais récurrent.
Et il est récurrent et il finit par cesser d'être un antagoniste. Oui. Il n'a pas... Ce qu'il y a chez Q, c'est qu'il a une haute tenue morale dont on ne comprend pas très bien les limites. On sent qu'il agit pour ça. Alors, c'est a pain in the ass, comme disent les Anglais, aussi, Q. Mais c'est pas Khan. Il n'agit pas pour des raisons qui sont intimes, qui sont égoïstes, égocentriques. Il n'est pas forcément mégalomane. Il est autre, Q.
Et il fait partie d'une catégorie qu'on n'a pas beaucoup évoquée, qui est la catégorie de l'être suprême omnipotent qui intervient, parce que Gene Roddenberry adorait ça, semble-t-il, et c'est prolongé dans Next Generation, qui, un coup sur deux, pose problème parce qu'il est totalement paradoxal et incompréhensible. On ne voit pas tellement l'intérêt pour l'histoire, mais régulièrement aussi remet en cause le primat de l'intelligence humaine de façon assez, assez salutaire. Et Q, de ce point de vue-là, moi j'ai eu beaucoup de mal dans ce premier épisode à le concevoir comme un véritable ennemi. J'ai eu l'impression qu'il était uniquement histrionique d'un bout à l'autre. Alors que ce n'était pas le cas, mais de fait, la façon dont c'était réalisé ne semblait pas pouvoir qu'on le prenne complètement au sérieux.
Il est exactement midi. Cet échange va arriver. Non, 13h. Mais 14, Gurpil. Désolé, au bout de 3 heures de festival.
JJ Abrams sort de ce corps.
Non, je peux pas. L'échange va s'arrêter ainsi. On vous remercie tous d'être venus. On vous souhaite longue vie et prospérité. Et on vous souhaite une bonne fin de journée au festival.